France Inter, il est 8h40, la parole à vous, auditeurs, 01 45 24 7000, toutes vos questions à notre invité, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, allez. Merci. Bonjour à l'équipe de France Inter. Je vous remercie pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous.
Et à Madame Schiappa de bien vouloir prendre ma question. Je suis mère de famille, j'ai actuellement 59 ans, j'ai eu ma première fille à 31 et la dernière à 37. Par choix, financièrement, nous avons donc décidé que ce serait moi qui travaillerais à temps partiel pour pouvoir élever les enfants de manière digne. J'ai donc fait un point sur ma retraite, j'ai commencé très jeune à travailler et comme j'ai travaillé à temps partiel, je me retrouve avec des trimestres qui sont donc validés, mais insuffisamment cotisés. Donc concrètement, je subis un peu la double peine. C'est-à-dire que j'ai mis ma carrière personnelle en arrière, et à la fin, je vais me retrouver avec un revenu à 800 euros. Ne pourrait-on pas considérer que le fait de travailler à temps partiel ou d'élever ses enfants soit un véritable travail?
Merci Catherine pour cette question. Marlène Schiappa.
Alors, plusieurs éléments de réponse d'abord. Bonjour Catherine. D'abord, si vous travaillez à temps partiel ou si vous prenez une pause dans le cadre d'un congé parental pour élever vos enfants, vous continuez à pouvoir avoir des cotisations pour la retraite. Ensuite, la question qui est posée, c'est une vraie question, un vrai sujet de préoccupation sur lequel on est en train de travailler, sont les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Parce que là, on est dans l'aboutissement de tout, à la fois l'aboutissement des différences de salaire, donc des 27% au global entre les femmes et les hommes, mais aussi l'aboutissement, comme cela vient d'être dit, des ruptures de carrière, donc des moments où il y a un des parents qui s'arrête de travailler pour élever leurs enfants, et dans plus de 9 cas sur 10, ce parent qui s'arrête de travailler, c'est la mère. Donc actuellement, il existe des solutions de partage, mais qui sont des solutions privées, proposées par des solutions privées financières. Mmh. Effectivement, on doit pouvoir regarder, il n'y a pas de tabou sur ce sujet, j'ai envie de dire. Donc, pour l'instant, c'est à l'étude, donc je n'ai pas d'annonce à vous faire sur ce sujet, à part vous dire qu'on est tout à fait conscient de cela, de cette situation, qu'il n'y a pas de sujet tabou et qu'on va faire en sorte de pouvoir résorber ces écarts au niveau de la retraite également.
Le chantier de la réforme des retraites permettra de traiter la question que soulève Catherine.
On est en train d'y travailler, moi je le souhaite, c'est évidemment un gros problème de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui à la retraite sont sous le seuil de pauvreté, c'est inacceptable et effectivement je partage ce qu'a dit Catherine, c'est une forme de double peine, donc nous y travaillons.
Léa ?
Oui, Laurence Parisot, Marlène Schiappa qui était à votre place il y a une semaine disait le cœur du problème pour l'égalité salariale homme-femme, c'est de forcer les hommes à prendre un congé paternité. Et Valérie Pécresse dit la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tant qu'ils ne prendront pas forcer le congé paternité, parce qu'ils sont très peu à le prendre, au fond, ça ne changera pas grand-chose.
C'est un sujet que je connais bien et qui me passionne, puisque vous savez que j'ai fondé et dirigé pendant 10 ans l'association Maman Travail, justement sur ces sujets de conciliation vie pro, vie familiale. Le congé paternité, je pense qu'il faut l'améliorer. C'est pour cette raison que nous avons commandé une mission à l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui doit nous faire des propositions pour qu'on puisse voir s'il est possible de l'allonger ou de mieux le rémunérer, ou les deux. Mais le rendre obligatoire, je ne suis pas favorable.
Pourquoi ?
Alors, je vous explique plusieurs choses. D'abord, une expérience qui nous montre que quand on rend obligatoire, en France, quand vous avez une politique familiale que le gouvernement veut rendre obligatoire, il y a un ressac, il y a un effet de rejet de la population. Je vous donne un exemple.
Le congé parental. Ils n'auront pas à le rejeter, puisqu'ils seront obligés de le faire.
Non, ça ne marche pas comme ça, parce que vous n'allez pas aller forcer les pères et les tirer en dehors des entreprises. Il y a des gens qui ne respectent pas les obligations. Je vous donne un exemple, le congé parental. Moi, j'avais plaidé comme présidente d'association lors de la précédente législature pour qu'il y ait un partage obligatoire. Que si le deuxième parent, donc le père dans la plupart des cas, ne prenne pas les derniers mois du congé parental, il soit perdu. J'avais demandé ça parce qu'en Suède, il y a une loi similaire ou à peu près similaire, et ça marche très bien. Mais on s'aperçoit que les mêmes lois dans des pays différents ne produisent pas les mêmes effets. Et en France, les chiffres viennent de sortir. On voit que non seulement ça n'a pas incité davantage les pères à prendre cette partie du congé parental, mais qu'il y a eu un recul. Il y a eu encore moins de pères. Donc moi, je crois que le rendre obligatoire, ça n'est pas une solution. Il n'y aura pas d'effet concret. En revanche, il faut regarder absolument la meilleure rémunération parce qu'actuellement, il y a des pères qui bricolent, qui ne prennent pas de congé paternité, mais qui prennent des RTT, des vacances, etc. pour avoir un congé paternité bien indemnisé et voir aussi la durée parce qu'effectivement, il y a actuellement 3 jours obligatoires et 11 jours au global, ça peut être un peu court.
Combien vous préconisez?
Là, je ne veux pas aller devant les recommandations de l'IGAS, c'est elle qui nous fera ces recommandations.
Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Merci pour vos émissions et merci à Marlène Schiappa et à Catherine pour sa question précédente. Ma question, c'était, vous parliez de la légalité tout à l'heure du fait que c'était illégal justement pour une entreprise d'attribuer 2 salaires différents à un homme et une femme pour le même poste. Donc si je pense que c'est le cas pour moi dans mon entreprise, est-ce que je peux porter plainte contre mon entreprise?
Merci Brigitte pour cette question.
Bonjour
Marlène Schiappa.
Merci beaucoup pour cette question qui va me permettre de donner des informations concrètes. Oui, alors d'abord vous pouvez saisir un syndicat. C'est le rôle des syndicats et nous appelons avec la ministre du Travail et le Premier ministre à ce que les partenaires sociaux mettent à l'agenda des négociations plus souvent la question de l'égalité salariale. Vous pouvez donc saisir un syndicat ou un délégué du personnel. Ensuite, vous pouvez faire appel à l'inspection du travail. C'est son travail. C'est parmi ses missions prioritaires, a indiqué le président de la République, que de contrôler l'effectivité de l'application des lois en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Et enfin, vous pouvez faire appel au défenseur des droits, cette instance qui est dirigée par Jacques Toubon, qui demande à être davantage saisie. Moi, j'ai signé une convention avec Jacques Toubon cet été. Nous sommes en train de travailler à faire connaître le défenseur des droits. C'est gratuit, il est très facile de le saisir et il a des moyens importants à la fois d'enquête mais aussi de coercition. Donc oui, vous avez des recours pour faire appliquer la loi et avoir le salaire que vous méritez d'avoir et que vous devez légalement avoir.
Sur Internet, Antoine vous dit recruter des inspecteurs du travail. Voilà ce qu'il faut faire, c'est la clé du problème.
Moi, je pense que la clé du problème, c'est la priorisation, c'est-à-dire quelles sont les missions prioritaires de l'inspection du travail. Ça n'est pas de mon ressort, mais le président de la République, là encore une fois, a donné son indication à cet égard.
Madeleine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci pour vos émissions, effectivement.
Merci.
Moi, j'avais une question par rapport à la mise en cause de Gérald Darmanin pour viol. En fait, j'ai une question sur la différence de traitement. C'est-à-dire que lorsque des ministres sont visés par une enquête préliminaire pour emploi fictif ou malversation immobilière, ils démissionnent ou sont exfiltrés du gouvernement. Là, un ministre a été mis en cause pour un crime, donc un viol, et on envoie le message qu'il ne se passe rien. Donc moi, je ne sais pas si M. Darmanin est un violeur ou non. Ça, c'est la justice qui le dira. Ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont mis des standards d'exemplarité qui sont très élevés. Ils les appliquent pour toutes les affaires, sauf sur les violences contre les femmes. Je leur demande pourquoi. Je me demande aussi quel message ça envoie aux victimes de violences. Et je me demande comment Marlène Schiappa, que je salue justement dans ma question, va pouvoir continuer à travailler sereinement dans ces conditions.
Merci Madeleine pour cette question. Marlène Schiappa vous répond.
Bonjour Madeleine. Plusieurs éléments de réponse dans ce que vous indiquez. D'abord, la démission, comme son nom l'indique, ce n'est pas un renvoi, c'est une démission, donc c'est un choix personnel. Les personnes que vous avez citées précédemment, Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou, avaient fait le choix personnel de démissionner pour pouvoir répondre à un certain nombre de mises en cause politiques et d'enquêtes qui étaient en cours. Gérald Darmanin fait le choix de ne pas démissionner, c'est son choix. Le Premier ministre fait le choix de lui réaffirmer sa confiance au nom du gouvernement, c'est son choix là encore. Donc je pense qu'on est dans des cas différents et qui ne sont pas, à mon avis, comparables.
Mais vous, la ministre du droit des femmes, qui a encouragé Balance ton porc, qui a encouragé la libération de la parole des femmes, qui a encouragé tout ça en disant c'est salutaire, est-ce que vous êtes mal à l'aise?
Moi, ce que j'encourage, effectivement, c'est la libération de la parole des femmes et c'est la judiciarisation. Et ça, je l'ai dit à de très nombreuses reprises, dès les premiers jours de Balance ton porc en France, avant même MeToo, puisque MeToo avait été créé aux États-Unis quelques jours après Balance ton porc en France, j'ai toujours dit, j'encourage la parole des femmes, j'encourage l'écoute, parce que ça fait des générations que les femmes parlent et qu'on ne les écoute pas, et qu'elles crient et qu'elles appellent au secours. Deux, j'encourage la judiciarisation. J'encourage les plaintes, et la justice ne se rend pas ni dans les médias, ni sur les réseaux
mais
sociaux.
Mais ce que vous dites, c'est que vous encouragez les plaintes, là il y a une plainte, il faut qu'elle arrive au bout pour qu'il y ait une démission ou pas, ou que... C'est ça que vous dites? C'est à quel moment on demande l'exemplarité?
Moi, je pense que la règle, elle a été claire, elle a été expliquée par le président et le Premier ministre, c'est à partir de la mise en examen. Sinon, ça veut dire qu'on peut, vous pouvez décider de déposer plainte contre tous les membres du gouvernement dès demain, et tous les membres du gouvernement vont devoir démissionner. La question, c'est la mise en examen. Si Gérald Darmanin était mis en examen pour viol, bien évidemment, il devrait quitter le gouvernement. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est la règle édictée par le président et par le Premier ministre. À ce stade, la plainte, elle a été classée sans suite et l'enquête, elle est en cours pour dénonciation calomnieuse. Donc moi, j'appelle vraiment à la sérénité, à laisser la justice travailler et à ne pas... Je m'interroge aussi, effectivement, sur l'exemple qu'on renvoie. Moi, j'ai pas envie qu'on étale dans les journaux l'avis ni du ministre, ni de la femme, en l'occurrence, qui a déposé une plainte, parce que le message qu'on va envoyer, ça va être de dire, si vous déposez plainte, votre vie sera étalée, etc., dans les journaux. Donc moi, j'appelle vraiment à la retenue de la presse et à laisser la justice sereinement travailler.
Vous n'avez pas appelé à la retenue de la presse quand il s'agissait d'autres personnes, de cinéma ou des journalistes dont les noms étaient...
Ah non, c'est pas vrai, Léa Salamé, je vous invite à réécouter toutes mes interventions. J'ai toujours dit deux choses. La justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux et elle ne se rend pas dans la presse. Et ça, je l'ai toujours dit.
En même temps, sans la presse, il n'y aurait pas eu ce mouvement.
Bien sûr. Non, mais je ne jette pas l'opprobre sur la presse.
Bien sûr, j'observe
quelque chose. Quand il s'est agi de Tariq Ramadan, j'ai été mise en cause. On m'a dit, bien sûr, c'est Tariq Ramadan, elle ne dit rien, etc. J'ai pas réagi. Quand il s'est agi de Frédéric Aziza, on m'a dit « Ah bien sûr, c'est Frédéric Aziza, donc elle ne dit rien, etc. » Je ne dis rien jamais pour personne parce que c'est la séparation des pouvoirs et que je n'ai pas de commentaire à faire sur les instructions en cours. Imaginez que je vous fasse un commentaire là sur l'instruction en cours. Ce serait interprété comme une volonté de ma part d'influer sur
vous
la justice.
Vous ne demandez pas un commentaire sur l'instruction en cours. Hein. On vous demandait si vous, en tant que ministre des droits des femmes, vous étiez mal à l'aise.
Vous ne dites rien, il faut dire quelque chose, etc. Je n'ai rien à dire sur une instruction qui est en cours.
Laurent, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue,
bonjour,
Laurent.
Bonjour, Madame Schiappa. Bonjour à toute l'équipe de France Inter.
Allez-y, Laurent, on vous écoute.
Oui, Madame Schiappa, vous êtes secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui marque une évolution par rapport au précédent gouvernement. Les ministères étaient consacrés aux droits des femmes. Pour cela, vous agissez tous les jours pour établir cette égalité ou pour la garantir entre hommes et femmes. Partout où les droits des femmes sont bafoués, et vous avez fort à faire, et bravo pour votre engagement dans ce sens, ma question porte sur quelles actions vous menez pour établir cette égalité hommes-femmes là où les droits des hommes sont bafoués. Je prendrai un seul exemple en matière de divorce. Il n'est pas rare de rencontrer des juges des affaires familiales qui considèrent que le droit parental est avant tout celui de la mère, que la garde est surtout et d'abord celle de la mère, et il y a cette inégalité-là qui est vécue par pas mal de pères. Est-ce que vous entendez établir l'égalité entre hommes et femmes sur ce terrain-là aussi ?
Merci Laurent pour cette question. Marlène Schiappa.
C'est une question qui est très intéressante. Effectivement, moi je dirais que plus que parler de droits des hommes par rapport aux femmes qui seraient lésées, etc., je parlais simplement d'égalité parentale. Il y a plusieurs choses qui motivent ces chiffres que vous indiquez et que je connais très bien. D'abord, il y a le fait que les pères demandent moins souvent la garde que les mères au cours des divorces. Ça, c'est la première chose. Il faut davantage, quand les pères ont envie d'avoir la garde de leurs enfants, il faut qu'ils n'hésitent pas à la demander. La deuxième chose, c'est qu'on vit avec un certain nombre de représentations clichés, stéréotypées. Il n'est pas rare d'entendre encore des choses comme « pour un enfant, seule la mère compte », etc. Ce qui n'est pas vrai. Elisabeth Badinter a démontré que l'instinct maternelle, c'était une construction sociale, qu'il y avait de l'amour, c'est pour ça que ça s'appelait l'amour en plus, mais que les pères sont tout aussi capables de donner des biberons, de changer des couches et de donner de l'amour à des enfants, quel que soit leur âge. Et enfin, il y a autre chose, je voudrais prendre la question à la racine. Vous savez que l'INED nous dit que 72% des tâches domestiques et familiales sont accomplies par les femmes. Donc souvent, les juges aux affaires familiales regardent l'actualité, la réalité de la vie dans la famille, et quand il y a un des deux parents qui est beaucoup plus investi que l'autre, eh bien la garde va à ce parent. Mais je crois qu'effectivement, il faut nous interroger sur le principe de base qui pourrait être la garde partagée avec un certain nombre de réserves. Bien évidemment, quand il y a des violences intrafamiliales ou conjugales, elles devraient tomber immédiatement. Et ensuite, il faut que les conditions soient réunies pour que cette garde se passe en toute sérénité entre les pères et les mères. Mais gardons vraiment à l'esprit l'intérêt de l'enfant avant tout, avant un quelconque calcul mathématique entre père et mère.
Marlène Schiappa, dans toutes les mesures que vous êtes en train de porter, est-ce qu'il n'y a pas un angle mort à l'école ? Alors que tout le monde dit et tout le monde sait que c'est dès la cour de récréation que les petits garçons et les petites filles commencent à faire l'épreuve de l'inégalité. Que fait l'école pour essayer de désamorcer ça aujourd'hui ?
Moi, je ne crois pas qu'il y ait un angle mort. Peut-être qu'on communique moins sur ce sujet actuellement parce que nous sommes en train de travailler sur la rentrée prochaine, la rentrée 2000 qui arrive.
Oui.
Merci, 2018.
Septembre 2018.
Petit bug. La rentrée 2018, oui. Merci, avec Jean-Michel alors, Blanquer.
Vous travaillez sur quoi ?
Alors, je vous explique. Nous étions là, par exemple, dans un lycée la semaine dernière avec le ministre de l'Éducation nationale pour travailler autour d'un atelier sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça, ça fait partie des choses que nous devons mettre en œuvre parce que vous savez que la loi prévoit déjà, ça n'est pas une invention de notre part, la loi prévoit trois interventions de cet ordre par année. Donc nous sommes en train d'y travailler. Nous travaillons aussi sur la mallette des parents qui est un outil qui avait été créé par le ministre de l'Éducation nationale dans le Val-de-Marne quand il exerçait d'autres fonctions pour nous adresser directement aux parents en ce qui concerne l'égalité entre les petits garçons et les petites filles. Enfin, il y a un volet sur l'orientation très important parce que les chiffres sont inquiétants. Ils nous montrent qu'il y a de moins en moins de jeunes filles qui s'orientent vers des filières de nouvelles technologies, numériques, scientifiques. Donc nous devons y travailler pour les encourager à s'orienter vers ces filières. Et pour terminer, une annonce qui a déjà été faite, le président de la République a indiqué que les professionnels seraient formés à partir de l'année prochaine, dès la crèche, pour prévenir justement ce que vous dites, et la répartition stéréotypée entre les petites filles et les petits garçons. À savoir, par exemple, la petite fille qui parle beaucoup est bavarde, le petit garçon qui parle beaucoup est un leader.
Bref, quel immense chantier. Restez avec nous, Marlène Schiappa, il est 8h56.